Panorama économique.
Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi, les principales informations. Après le taux directeur revu à la hausse en fin septembre, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, réuni en session extraordinaire mardi à Kinshasa, a aussi décidé de relever les coefficients de réserve obligatoire des banques commerciales. Il sera désormais appliqué les taux de 12% pour les dépôts en devises à terme et 13% pour les dépôts en devises à vue. Lundi 17 octobre, c'était la journée mondiale de l'élimination de la pauvreté. À l'occasion, le bureau de la Banque mondiale Kinshasa et le PNUD ont organisé des activités dans la capitale. Occasion pour le PNUD de parler de ces statistiques selon lesquelles 8 personnes sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté en RDC. Le conseil régional des ONG de développement Krong Oriental, avec l'appui de la fondation Konrad Adenauer, a entamé depuis mardi une campagne de sensibilisation de la société civile sur les méthodes de suivi et évaluation du programme national de stratégie de développement. Nous allons également dire un mot sur la vente de TFM contestée par son partenaire la GKMINE qui vient justement de saisir la justice internationale pour arbitrer ce conflit. Voilà pour le titre, messieurs, dames. Je suis Daniel Tambizoli devant ce micro. À la prise de son, Héritier Sidakala. Bienvenue à Panorama économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Commençons cette rétrospective par lundi, chronologie oblige. Le 17 octobre, c'était la journée mondiale de l'élimination de la pauvreté. Cette journée avait pour thème de l'humiliation et l'exclusion à la participation, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. L'objectif du développement durable des Nations Unies qui vise à éliminer l'extrême pauvreté et la faim, son objectif numéro 1 reconnaît explicitement que la pauvreté ne résulte pas du manque d'un seul facteur, mais de l'absence cumulée de nombreux facteurs étroitement liés les uns aux autres qui affectent la vie des personnes. Cela signifie que l'humanité doit dépasser une définition traditionnelle de la pauvreté, comprise comme l'absence de revenus ou d'accès à des besoins nécessaires pour assurer le bien-être matériel, tels que la nourriture, le logement, la terre, ainsi de suite, afin de comprendre pleinement la pauvreté dans ses multiples dimensions. Le thème 2016 de cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, choisi en consultation avec les personnes et les organisations de la société civile et d'organisations non gouvernementales, souligne à quel point il est important de reconnaître et de prendre en compte l'humiliation et l'exclusion endurées par de nombreuses personnes qui vivent dans la pauvreté. À Kinshasa, le PNUD a révélé que 8 personnes sur 10 en RDC vivent sous le seuil de la pauvreté absolue. Pour renverser la tendance dans les programmes et projets de développement qu'il soutient, le PNUD veille à l'implication des bénéficiaires eux-mêmes dans la création et la mise en œuvre de ces programmes et projets, a souligné la directrice pays du PNUD. Les propos de Mme Praya Kashraj sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Aujourd'hui, 1 milliard de personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté et 800 millions souffrent de faim et de malnutrition. En République démocratique du Congo, 8 habitants sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté absolue, c'est-à-dire avec moins de 1,25 $ américains par jour. Les données de l'enquête 1-2-3 de l'Institut National de Statistique démontrent que la pauvreté est davantage rurale et fortement ressentie par les femmes et les jeunes. Différents facteurs d'exclusion accentuent les conditions d'extrême pauvreté telles que le chômage, le manque d'accès à l'éducation et les crises provoquant les déplacements de population. Nous devons donc briser les murs de la pauvreté et de l'exclusion qui isolent tant de personnes.
Toujours à Kinshasa et le même lundi 17 octobre, la Banque mondiale du Congo a organisé une table ronde de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. 20 entrepreneurs congolais de moins de 40 ans étaient conviés à cette réunion organisée sous l'égide de la Société financière internationale, une institution de la Banque mondiale. Objectif visé, donner une tribune aux jeunes entrepreneurs qui luttent contre la pauvreté et impactent positivement dans leur environnement. Un reportage de Nadine Foulatiba consacré à la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, campagne de la Banque mondiale, bureau de Kinshasa.
Le bureau de la Banque mondiale Kinshasa voulait par cette activité sensibiliser les jeunes entrepreneurs sous les différents programmes d'accompagnement qu'offre cette institution des Bretton Woods. Parmi les jeunes participants, 6 ont partagé avec les autres comment ils ont débuté leur business, les difficultés rencontrées et surtout les efforts fournis pour lutter contre la pauvreté. Je vous propose d'écouter quelques-uns qui se sont confiés à nous.
La réduction à la pauvreté, ça a déjà commencé par moi, personnellement, être auto-entrepreneur, c'est-à-dire me prendre en charge moi-même. Et deuxièmement, on aide les jeunes qui ont des projets, via notre espace de coworking, à mettre en place et à devenir des entrepreneurs.
J'ai mis en place un comparateur de prix qui sera ouvert au grand public dans le prochain jour.
La société Ma Papaz est une société qui produit et qui fabrique des accessoires de mode sur base de leur talent, de leur créativité. La plupart, c'est des cordonniers de rue.
Présent à cette réunion, Dieudonné Kassembo, vice-président national de la FEC en charge de PME, s'est dit émerveillé par tant de potentiels dans ces jeunes entrepreneurs. On l'écoute.
Non, mais j'étais la personne la plus heureuse parce qu'au fait, j'avais en face de moi des jeunes opérateurs qui sont tous PME. Mais je voudrais voir que demain, ils évoluent plus dans les formels.
La grande préoccupation de ces jeunes reste l'accès au financement. À ce sujet, Richard Mwamba Kasenga, chargé des investissements à la Société financière internationale IFC, parle de l'apport de la Banque mondiale dans ce secteur.
Nous le faisons en fournissant les capitaux. Ça, nous le faisons à travers des fonds d'investissement tels que XSMN, dans lequel nous avons...
En offrant aux entreprises innovantes la possibilité de lancer et de développer leurs idées, la Banque mondiale cherche à encourager la croissance économique et la création d'emplois, a souligné le chargé des investissements à l'IFC du groupe de la Banque mondiale.
Le deuxième sujet de notre dossier de la semaine, après avoir relevé à 7% son taux directeur et après la vente de devises aux banques commerciales par l'autorité monétaire en fin septembre, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, réuni en séance extraordinaire mardi, a revu également à la hausse les taux des réserves obligatoires des dépôts en devises à vue et à terme. Toutes ces démarches visent une chose, contrer la dépréciation du franc congolais qui représente en 2 mois 5,9% à l'interbancaire et de 9,7% sur le marché parallèle. Plus d'explications avec Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo.
Nous venons à l'issue de cette réunion du comité de politique monétaire extraordinaire décider du relèvement du coefficient de la réserve obligatoire sur le dépôt en devise. Le coefficient vient de passer de 9 à 12% pour le dépôt à terme et de 10 à 13% pour le dépôt à vue. Nous avons préféré garder les statu quo en ce qui concerne le coefficient de la réserve obligatoire sur le dépôt en monnaie nationale. En fait, l'objectif poursuivi par ce relèvement du coefficient de réserve obligatoire est d'obtenir par cette ponction d'une partie de la liquidité excédentaire qui peut atteindre 80-90 milliards, par cette ponction, amener le banc à ne pas transformer à tout moment les dépôts en francs congolais en devises étrangères. Ça, c'est l'objectif immédiat. C'est vrai que toute autorité monétaire a les soucis de renforcer le canon de transmission des impulsions de sa politique monétaire à l'économie réelle et donc au fonctionnement de banques. Il nous faut qu'à terme, que le banque revienne en banque. Lorsque nous relevons le taux directeur de 2 à 7, qui a été fait la fois passée. Il faut qu'on sente l'impact de ce relèvement du taux directeur. Il est vrai qu'avec ce relèvement, nous n'allons peut-être pas neutraliser toute la liquidité excédentaire, mais la liquidité excédentaire résiduelle pourra également être résorbée à travers les mécanismes d'émission du bon de la BCC dans le cadre de la régulation de la liquidité bancaire.
L'année 2016 demeure marquée par une forte contraction de l'offre de devises. C'est une situation consécutive, a dit le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à la morosité de la conjoncture économique mondiale. La pression sur le marché de change à ce jour est accentuée par d'importantes injections de liquidités suite au déficit des opérations financières de l'État. Déficit estimé aujourd'hui à 336,4 milliards de francs congolais. Ceci a poussé l'autorité monétaire à relever, nous l'avons dit, le coefficient des réserves obligatoires pour tenter de contrer la dépréciation du franc congolais, la monnaie nationale. Pour éviter que la situation ne s'envenime à la fin de l'année, Deogracias Mutombo rassure que les importateurs de vivres obtiendront de la BCC des devises nécessaires pour approvisionner le pays pendant les festivités de fin de l'année. Cette question d'approvisionnement du pays pendant la période des fêtes de fin de l'année était également au centre d'une rencontre entre le ministre de l'économie nationale et la Fédération des entreprises du Congo, la FENAPEC et la COPEMECO. Après plus de 4 heures de discussion, plusieurs mesures étaient arrêtées pour trouver des solutions aux problèmes liés non seulement à l'approvisionnement en produits de première nécessité, mais aussi de la dégringolade du franc congolais face aux devises étrangères. On écoute Modeste Bahati, ministre de l'économie nationale, qui revient ici sur ces différentes mesures.
Cette réunion a produit des suggestions qui vont être rapidement mises à exécution, et c'est notamment la mise à disposition des importateurs des moyens de paiement en devises pour l'importation, mais d'abord en faisant le point sur la production intérieure, parce qu'elle existe. Il faudrait donc mettre l'accent sur la production intérieure et ne recourir aux importations que vraiment pour le complément et en cas de nécessité. Ainsi, des produits comme le riz, le sucre, les huiles, le poisson et d'autres produits de première nécessité ont été listés de manière à ce que rapidement des mesures soient prises pour que déjà dès le mois en cours et le mois qui suivent, le marché soit achalandé pour que on ne puisse pas connaître la pénurie. Il a été convenu que cette fois-ci, il y ait des réunions de suivi pour établir une liste de manière à s'assurer que réellement ce sont ceux-là qui sont attitrés pour intervenir, qui vont bénéficier des allègements et du moratoire du gouvernement. Le moratoire a été accepté par le gouvernement pour les 3 mois qui viennent, moratoire fiscal, moratoire douanier, mais également les contrôles économiques, fiscaux et autres vont être réduits strictement à quelques cas où il y a des indices sérieux.
Et nous prenons le troisième et dernier sujet dans notre dossier de la semaine, dossier consacré à la vente de la société minière Tenke-Fungurume Mining TFM, vente contestée par Gécamines qui vient de porter l'affaire à la Cour internationale d'arbitrage. La Gécamines a saisi la Cour internationale d'arbitrage au sujet de la vente des parts du groupe américain Freeport-McMoRan dans la société minière Tenke-Fungurume Mining. Des parts estimées à 56% vendu au mois de mai dernier pour une valeur de 2,65 milliards de dollars américains à la firme chinoise China Molybdenum qui devient actionnaire majoritaire de TFM. Nadine Fola nous donne plus de détails.
La Gécamines, qui détient 20% des parts dans Tenke-Fungurume Mining, avait contesté cette vente dénonçant une cession unilatérale. En septembre dernier, la Gécamines, qui gère les actifs publics miniers au Katanga, avait déposé à son tour une offre de rachat de la participation de Freeport-McMoRan dans Tekel Fungurume. En saisissant la Cour internationale d'arbitrage, l'entreprise minière congolaise demande notamment que tout changement des propriétaires de la mine des TFM soit bloqué. La générale des carrières et des mines a lancé un processus d'arbitrage international pour faire valoir sa position sur les changements de contrôle indirect des TFM et la question du droit des premiers refus, a déclaré Deogratias Ngele Masoudi, secrétaire général de la GKMine à l'agence Bloomberg. La société reste prête à explorer avec les différentes parties une approche plus acceptable pour faciliter la sortie volontaire des partenaires actuels, a-t-il ajouté. Le groupe américain Freeport McMoRan n'a pas encore réagi à la décision de la GKMine. Mais pour rappel, en 2015, Freeport McMoRan avait vendu 467 millions de livres de cuivre et 35 millions de livres de cobalt extraites de la mine des TFM au prix moyen de 2,42 $ par livre de cuivre et de 8,21 $ par livre de cobalt.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Merci d'écouter Panorama économique dans le Nord Ubangi, à Mobaye Mbongo et à Gbadolité. Les autres informations de la semaine. Lundi, nous vous avons parlé de plus de 100 agents de la fonction publique du Congo central omis de la liste de la paye après le contrôle des effectifs opéré par le ministère du Budget. Et le député national Papi Matizolo a lancé un cri d'alarme en direction des autorités nationales pour que ses compatriotes soient remis dans leurs droits. Le gouvernement du Kasaï central veut en finir avec l'intensification des réseaux électriques privés à Kananga. D'après le ministre provincial de l'énergie, ces réseaux de distribution du courant électrique aux voisins à l'aide de fils dénudés présentent beaucoup de dangers pour la population. Albert Usochika a déploré le décès mardi soir d'une dame électrocutée. La victime avait piétiné un fil dénudé de ce réseau alors qu'elle puisait l'eau de la pluie. Mardi et en province de la Tchopo, le conseil régional des ONG de développement Krong Oriental, avec l'appui de la fondation Konrad Adenauer, a sensibilisé la société civile sur les méthodes de suivi et évaluation du programme national de stratégie de développement, un nouveau programme du gouvernement congolais de lutte contre la pauvreté après le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté qui va prendre fin au mois de décembre de cette année 2016. Ce nouveau programme, selon le Krong, entre en exécution en 2017 et ira jusqu'en fin 2050. Tout en justifiant la tenue de cet atelier, Rider Mitoko, coordonnateur de Krong Oriental, présente également les étapes du programme national de stratégie de développement. Il est au micro d'Anselme Massoua.
En fait, le livre 1 nous parle de la vision de la RDC à l'horizon 2050, tandis que le livre 2 nous parle de la stratégie et des outils de la mise en œuvre de ces documents qui fait passer la RDC d'ici à 2021 à un pays à revenu intermédiaire, de 2021 à 2030 à un pays émergent et de 2030 à 2050 à un pays développé. Ça, c'est la vision. Il y a le livre 3 qui reste, qui consiste à la programmation maintenant, aux activités. Et c'est ce qui reste. En 2017, pratiquement dans 2 mois et demi, le gouvernement principal a commencé à mettre en œuvre ce nouveau programme, surtout que le gouvernement pourrait injecter autour de 21 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Donc il faudrait que les parties prenantes, la société civile, la presse, puissent connaître ce qui va se passer, puissent connaître comment faire le suivi des activités par rapport à tout ce qui sera réalisé au cours de la mise en œuvre de ce nouveau programme.
Mardi encore, Kibali Gold Mines, fidèle à sa tradition, a fait savoir que sa mine d'or prend de l'élan avec les prévisions d'amélioration substantielle des performances pour la seconde moitié de l'année 2016. C'est Marc Bristow, directeur exécutif de Run Gold Resources, qui a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse ici à Kinshasa. Il a par la même occasion annoncé que Kibali compte lancer sa deuxième centrale hydroélectrique Ambaro. Celle-ci prévoit de livrer sa première énergie électrique au mois de novembre de cette année. Plus de détails avec Nadine Fulantimba.
Pour le directeur exécutif des Randgold Resources, Kibali a réalisé des progrès sur tous les fronts par rapport à la réalisation de son plan d'affaires 2016, et cela après un début lent. Prenant la parole lors de la conférence de presse hier, Marc Brissot a fait savoir que la mine de Kibali était capable de financer l'investissement nécessaire à l'achèvement de son développement avec la mise en service complète de son exploitation souterraine prévue pour la seconde moitié de 2017. En outre, la seconde de ses centrales hydroélectriques, Ambaro, prévoit de livrer sa première électricité en novembre de cette année. La construction de la troisième à Zambie va bientôt commencer avec la préparation du site déjà en cours. À ce sujet, le directeur exécutif a informé que tous les contrats pour les travaux d'Azambie ont été attribués à des entreprises avec une participation majoritaire des actionnaires congolais. En même temps, l'entrepreneur principal, qui travaillera en partenariat avec leur équipe, a un capital à 100% local. Autre point évoqué au cours de cette conférence, c'est le nombre de projets agro-industriels à grande échelle qui sont conçus non seulement pour fournir l'activité économique et un approvisionnement alimentaire sûr dans un proche avenir, mais aussi de laisser un héritage durable à la communauté après la fermeture éventuelle de la mine les moments venus.
Mercredi 19 novembre, la journée ville morte sur appel du rassemblement des forces acquises au changement à Kinshasa a imposé un rythme inhabituel aux opérations économiques et commerciales dans la capitale. Si quelques petits vendeurs des marchés de la cité ont vendu, il n'en était pas le cas au centre-ville où un ou deux magasins sur 10 avait ouvert. Retrouvons encore une fois Nadine Foula pour le reportage.
Au centre-ville, seuls quelques supermarchés ont ouvert. Les magasins qui ont ouvert n'avaient malheureusement pas d'acheteurs. Les rayons de supermarchés, souvent bondés vers midi et le soir, ne l'ont pas été aujourd'hui. Les étalages du marché central ont servi de reposoir pour les chéguer avant que la pluie de cet après-midi vienne les chasser. Le vendeur n'a pas ouvert son petit commerce, on l'écoute. Au marché Gambela, par contre, les vendeurs ont opéré, mais il a été difficile pour eux de se confier à notre micro. À la cité et dans la commune de Bandalungwa, par exemple, les magasins et shops sont restés fermés. On pouvait apercevoir quelques taxibus et taxis assurer les transports en commun. Sur les grandes artères où il y a d'habitude des embouteillages monstres, la circulation est restée fluide toute la journée.
Et nous allons terminer par Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Lubumbashi, où la coalition Publier ce que vous payez a clôturé mercredi un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE et la redevabilité. Il s'agissait d'outiller les journalistes du réseau des médias associatifs et communautaires de l'ex-Katanga, REMAC en sigle, sur les différents changements de la norme du rapport ITE 2016. Il s'agissait également d'impliquer les chevaliers de la plume dans la dissémination du rapport ITE dans les communautés locales. Nelly Kabena nous en dit plus dans ce reportage et ce sera pour clôturer Panorama économique sur Radio Kapi. Nelly Kabena.
Pour la coalition Publier ce que vous payez, les radios communautaires sont proches de la communauté. Elles produisent des émissions à caractère communautaire, notamment sur l'ITIE, qui touche directement cette communauté. Cette session, qui a duré 3 jours, était spécialement penchée sur les paiements sociaux par les entreprises extractives, qui signifie, explique Maître Jean-Claude Katende, coordonnateur de la coalition.
C'est en fait ici toutes les dépenses qui sont faites par les entreprises au profit des communautés, notamment la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, des bornes, fontaine, tout ça, ça rentre dans les paiements sociaux.
Depuis la mise en place de cette stratégie de communication par les radios communautaires, la coalition se dit satisfaite du résultat obtenu dans les communautés. Le chargé de suivi des émissions sur l'ITIE place le réseau des médias associatifs de l'ex-Katanga, REMAC en sigle, en deuxième position après le réseau du Congo central. Il y a eu 153 émissions sur l'ITIE qui ont été diffusées depuis janvier 2016. Et le cas de la cité minière de Fungurume en est la preuve, indique Christelle Yessala.
Par rapport à Lubumbashi, je dirais que les gens de Fungurume se sont plus appropriés la question. Lors de tribune d'expression populaire, on avait appris l'année passée que l'entreprise ne donnait que 0,1% à la communauté. Mais cette année, après les tribunes d'expression populaire, l'entreprise donne par son bénéfice 0,3%.
Signalant que près d'une vingtaine de journalistes venus de Kolwezi, Likasi, Kakanda, Fungurume et Lubumbashi en prépare à ses assises de Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Merci Noli et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Retrouvez Panorama économique sur www.radiookapi.net. Je suis Daniel Tambizoni et Ristesi Diakala était à la prise de son. Merci et très bonne fin de semaine sur la fréquence de la paix.